Encore une fois, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons ouvrir la Bible, mais je dois vous dire quelque chose et je ne peux pas traduire Aldo ou bien Roland devant les tribunaux parce qu'ils ont déjà prêché le message. Aldo, dans l'étude de ce matin, c'est déjà tout dit. Mais alors, nous allons compléter ce qui a été dit, puisque l'histoire de Jésus est toujours nouvelle. Puisqu'il est nouvelle, c'est toujours intéressant de l'entendre. Et nous allons lire dans Jean chapitre 3, verset 14 et verset 15. Jean chapitre 3, verset 14 et 15. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Parole du Seigneur. Quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le titre de notre prédication ce matin, c'est un remède universel. Un remède universel. La plus belle histoire qui a traversé les confins de l'humanité demeure toujours nouvelle. C'est l'histoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Sa naissance, ses souffrances, sa mort et sa résurrection pour sauver le monde de ses péchés. Et le premier chant avec Faoula avait commencé, c'est par ta grâce. Ah oui, s'il n'y avait pas de grâce, qui serions-nous ce matin? La Bible est riche en paraboles. Elle emploie très souvent des types, des symboles, des métaphores pour illustrer des vérités lointaines. Parlant de types, dans les études avec Pasteur Aldo, nous savons beaucoup de choses concernant. La parole de Dieu relate plusieurs types de Jésus. Citons par exemple le dernier Adam. Le dernier Adam, c'est Christ. Le sang d'Abel est comparé à celui de Christ. Isaac, fils unique d'Abraham, offert en sacrifice comme Jésus. Les rochers frappés à Horeb, ce rocher, c'est Christ même. Il est le rocher des siècles. Joseph vendu par ses frères, c'est Jésus. Le serpent d'airain qui fait l'objet de notre prédication ce matin était une image de Jésus-Christ élevé sur la croix. Voilà pourquoi cette croix ici, c'est un morceau de bois. Mais quand nous nous tournons vers, ça nous dit quelque chose. Ça nous rappelle quelque chose. Sans cette croix, nous ne serions pas ici, présents, pour louer et pour glorifier notre Dieu.
Dans toutes les actions, il y a toujours des comment et des pourquoi. Les enfants d'Israël étaient le peuple choisi de Dieu. Mais c'était un peuple rebelle, à coups raides. Un peuple qui n'obéissait pas à la parole de Dieu. Ils ont passé 430 ans d'esclavage en Égypte sous la férule de Pharaon. Et l'Éternel a envoyé Moïse comme libérateur pour les libérer. Dans Exode chapitre 7, Exode chapitre 3, du verset, dans le verset 7, nous lisons Exode chapitre 3, le verset 7, l'Éternel dit à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. » Quand l'Éternel entend, quand l'Éternel écoute les prières, il exauce. Et il est toujours arrivé à temps. Je ne sais pas depuis quand votre requête est dans l'air. Je ne sais pas depuis quand vous êtes sur les genoux. Mais il faut savoir une chose. L'Éternel, il écoute, il entend et il voit. Et il vous exaucera. Mais c'est selon sa volonté. Par la puissance de l'Éternel, les Israélites ont traversé la mer Rouge à pied sec. Traverser la mer Rouge à pied sec pour aller au Canaran. Pour aller au Canaran, ils devaient traverser le désert. Quand on dit désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'arbre fruitier, il n'y a rien, c'est un désert. Mais alors, il doit traverser le désert. Fort souvent, quand on parle à quelqu'un qui vous parle de ses difficultés dans la vie, on vous dit, ah, Jean-Pierre, ben, si vous voulez arriver là, il faut traverser le désert. Ça veut dire qu'il faut accepter les difficultés. La vie en soi est un désert. Il n'est pas facile de vivre. Mais le peuple, dans leur ingratitude, ils ont oublié ce que l'Éternel avait fait pour leur délivrance des mains de fer des Égyptiens. Quand vous êtes esclave, vous n'avez aucun droit, hein? Et ils se sont mis à murmurer contre Moïse, malgré la patience de Moïse. La Bible reconnaît que Moïse est un homme patient, qu'aucun homme sur la terre. Et murmurer contre Moïse et murmurer aussi contre Dieu, hein? Puisque c'est Dieu qui a choisi. Dans Exode chapitre 16, verset 3. Les enfants d'Israël leur dirent, que sommes-nous? Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans le désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Mais alors, on était esclaves dans un pays où est-ce qu'on avait trouvé toutes ces viandes? Le peuple a oublié comment il était, dans quelle situation il vivait. C'est l'ingratitude. L'ingratitude de moi, l'ingratitude de chacun de vous. Nous oublions souvent ce que Dieu a fait pour nous, d'où nous étions, pour être ici, pour le glorifier. Nous étions dans les boubiers du péché. Vous oubliez? Nous faisons ce que nous voulons. Alors, Dieu, dans sa fidélité, il n'abandonne jamais ses enfants. Est-ce que nous sommes comme Dieu? Il n'abandonne jamais ses enfants. Pendant 40 ans dans le désert, l'Éternel prend soin de son peuple, comme il prend soin de nous. Il leur donna à manger de la manne. Ce n'est pas n'importe quelle manne, parce que la Bible dit que ces mannes ont du goût de miel. Il leur donne de l'eau à boire pour étancher, apaiser leur soif. Parce que dans le désert, il n'y avait pas d'eau. Leurs souliers et leurs vêtements n'étaient pas déchirés pendant 40 ans. Et nous avons un enseignement avec coronavirus. Un enseignement. Il y a beaucoup de plaintes. Hein? Est-ce que nous savons combien de temps il nous reste dans cette situation? Ça veut dire, si vous commencez à vous plaindre aujourd'hui, c'est une éternité. Frères et sœurs, bien-aimés, murmurer contre la volonté de Dieu entraîne des conséquences néfastes dans nos vies en tant que croyants. Pourtant, Dieu sait plus que nous nos manquements, nos besoins, avant même qu'ils arrivent. Alors, évitons de parler mal contre Dieu. Évitons de parler mal quand nos projets ne sont pas réalisés comme nous avons attendu. Parce que Dieu a tout fait pour un but. Tout à l'heure, frère Roland l'avait répété, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, toutes choses là-dedans, il y a l'échec et le succès. Ça veut dire, comme David, Dieu bénirait l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Mais la vie n'était pas aussi rose pour David. Hein? Quand votre propre fils est jaloux de votre poste, c'est un grand problème. Hein? Quand dans la maison il y a ennemi, c'est un grand problème. Hein? Chez nous, on dit, si moun kaye pas avant nous, moun deyo pas acheté. Ça veut dire, si la personne qui est dans la maison ne vous vend pas dehors, dehors ne va pas savoir ce qui se passe ici. Mettez-vous dans la situation pour voir. Ce n'est pas facile. Évitez de parler mal contre les serviteurs et les servantes de Dieu. Si vous savez quelque chose de Jean-Pierre, viens auprès de Jean-Pierre pour lui dire ceci, cela. Ne restez pas derrière la barrière, derrière la porte, derrière les murs, pour chuchoter avec les autres contre lui. Alors que nous avons le devoir de veiller les uns sur les autres. Et c'est ça qui faisait le poids, la force de l'église primitive. ils confessaient leurs péchés entre eux. Évitons de parler mal contre nos frères et sœurs, car nous sommes membres les uns les autres. Oui, nous sommes membres les uns les autres. Nous sommes une famille sacrée en Jésus-Christ. Au murmure des enfants d'Israël, l'Éternel était en proie à la colère. Eh oui, l'Éternel ne tolère pas ce type de comportement. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des serpents venimeux contre les enfants d'Israël. Beaucoup étaient morts. Ah oui, pensez pas que Dieu il va tolérer tous vos comportements, il va accepter tous les comportements que vous affichez à la maison, à, dans la rue, à l'école, dans le travail, à l'université. Non, Dieu il voit tout. Et si vous n'êtes pas cloué au sol déjà, c'est pas sa grâce. Pas sa grâce seule. Et quand ces serpents venimés envahissent le peuple, Moïse a intercédé auprès de Dieu en leur faveur. Et l'Éternel a entendu la prière de Moïse. Puisqu'il a entendu la prière de Moïse, il ordonna à dresser une il ordonna à dresser un serpent d'airain sur une pêche. Et ce serpent brûlant était dressé. Tous ceux qui étaient mordus et regardaient avec un regard de foi vers le serpent d'airain étaient guéris. Tous ceux qui regardaient vers ce serpent de rein avec la foi, ils étaient guéris. Et Aldo a commencé ce matin, est-ce que nous allons au ciel? Comment? Et si vous n'avez pas la foi, vous n'y arrivez pas. Mais oui, c'est la foi seule qui sauve. Vous n'avez pas la foi, vous ne montez pas. Même quand vous passez par X, par Y, par Z, vous ne montez pas. Il faut croire seulement en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité, c'est lui qui est la vie. Et il dit, nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire si vous n'avez pas la foi en Jésus-Christ, pour l'éternité, vous êtes ici. Dans Nombre, Nombre chapitre 21, c'est des livres de Moïse, hein? Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Nombre chapitre 21, du verset, nous allons faire une lecture du verset 2. Au verset 9. Du verset 5 au verset 9. Le peuple s'impatienta en route dans le désert et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain. Il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. La manne. Alors, l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une pêche. Quiconque aura été mordu et regarda conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, il conservait la vie. C'est une belle histoire. Une histoire qui retourne vers nous, qui nous permet de nous auto-questionner comment je vis, comment je parle contre Dieu, comment je parle contre mes frères, comment je parle contre les serviteurs de Dieu, comment je parle contre les servantes de Dieu. Attention pour ne pas être victime des serpents venimeux. Cette image était une préfiguration de Christ, crucifié et ressuscité, source de salut pour tous ceux qui croient en lui. Oui. Si Jésus n'était pas mort, il n'y aurait pas de salut. Dans Romains chapitre 10, verset 9, Paul dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le péché est une pandémie cancéreuse qui gangrène le monde, mes frères et sœurs. Le péché. Dieu, dans sa sainteté, ne peut pas tolérer le péché. Voilà pourquoi, forcément, nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu avec les péchés non confessés. Si vous allez offrir quelque chose à Dieu, eh bien avant de nous présenter, il faut qu'on soit certain qu'on avait confessé les péchés devant Dieu. Parce qu'il n'est pas attentif à celui qui lui parle avec les péchés non confessés. Il vaut mieux vivre dans la disette et dans la pauvreté que de vivre dans le péché. Il vaut mieux être pauvre. Et la majorité d'entre nous, nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres. Est-ce que vous êtes riches? En Christ, merci à nous. En Christ, nous sommes riches, mais économiquement, nous sommes pauvres. Qui de nous n'a pas connu la situation à découverte? Nous sommes pauvres. Mais je vous dis, il vaut mieux vivre dans la pauvreté que de vivre dans le péché. Si vous vivez dans le péché, c'est mort. Comme dit les jeunes ici, c'est mort. Il n'y a pas de place pour vous. Vous n'avez aucune garantie. Parce que Dieu, il est en horreur contre le péché. Le péché fait obstacle à la prière des enfants de Dieu. Il entraîne dans nos vies des conséquences naturelles, des conséquences spirituelles, des conséquences sociales et des conséquences économiques quand nous vivons dans le péché.
Et alors vous allez dire, c'est nous les ceux qui nous précèdent. Moïse en était victime. Hein?
Moïse voit le Canaran, mais il n'y entrait pas. Parce qu'il n'avait pas écouté ce que l'Éternel l'avait dit.
Ah, vous pensez, Moïse, c'est pas comme nous, hein? Moïse, c'est un grand homme de Dieu, le libérateur du peuple Israël.
Nous ne savons pas où Moïse était situé. L'Éternel lui a montré Canaan là-bas, tête tout Eiffel.
Mais il n'est pas rentré. Pourquoi? À cause de sa désobéissance.
L'Éternel lui a demandé de parler au rocher.
Il l'a frappé. Ah non!
Quand l'Éternel vous dit de ne pas faire ça, ne fais pas. Quand l'Éternel vous demande de faire, fais-le. Sinon, c'est foutu. Voilà pourquoi,
si nous sommes là ce matin, c'est par la grâce de Dieu.
Ah, sinon, si c'était comme Ananias et Saphira,
Jean-Pierre le premier, ce ne serait pas là. Mais la grâce de Dieu, hein, nous a couverts. Et jusqu'à ce que c'est Josué qui a conduit le peuple dans le pays où coule du miel et du lait. Josué.
Avant la venue de Jésus, quand nous avons péché, nous offrons des sacrifices. Un taureau, un bouc, une chèvre pour couvrir les péchés. Mais quand on a couvert les péchés, quand on enlève le voile, qu'est-ce qui est arrivé? Le péché s'apparaît. Hein? Eh oui, c'est une couverture.
Et le sacrifice de Jésus à la croix a expié tous nos péchés une fois pour toutes.
Hein? Une fois pour toutes.
Dans Hébreux, chapitre 9. Dans Hébreux, chapitre 9, le verset 13. Nous lisons. Si le sang des taureaux et des boucs et la cendre du vache répandit sur ceux qui ont souillé, sanctifie et procure la pureté de la chair. Eh bien, combien à plus forte raison le sang de Christ peut nous laver et nous purifier de tout péché. Le sang de Christ peut nous laver et nous purifier de tout péché.
Et dans Hébreux 10, verset 4, il dit, il est impossible que le sang des animaux efface les péchés.
Chez nous, quand on dit impossible, on vous dit, ah, impossible n'est pas français.
Et la Bible dit, il est impossible que le sang des animaux efface les péchés. Et le Saint-Esprit atteste par la seule offrande du corps de Jésus-Christ. Il a amené à la perfection pour toujours
ceux qui sont sanctifiés. Il n'y a rien de nouveau là pour nous si nous suivons les études avec Aldo sur le livre des Hébreux.
Le Saint-Esprit atteste que ce sacrifice seul est suffi pour nous sanctifier pour toujours. Parce que malheureux que nous sommes, où est-ce que nous allons trouver des bœufs, des cabris, des chèvres, hein, pour donner chaque fois que nous péchons, pour que nous ayons quelque chose pour couvrir le péché. Aujourd'hui, nous pouvons dire haut et fort, vive le sang de Jésus qui nous a lavés. Le sang de Jésus qui nous a purifiés. Le sang de Jésus qui nous a sauvés. Et malgré nous continuons à pécher, Isaïe comme un évangile, hein, que nous connaissons dans Isaïe 1er, voici ce que le prophète il a dit. Et Isaïe 1er, dans le verset 18, il dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Et c'est seul et seulement le sang de Jésus qui puisse le faire. Rien d'autre. Vous pouvez avoir une tache dans votre chemise blanche ou bien votre robe blanche. Vous cherchez à tort et à travers Clorox, hein, quel que soit le produit vous mettez. C'est faux. C'est que vous voyez à la télé, on met le produit et puis la couleur devient... C'est faux. Mais quand le sang de Jésus vous lave, vous êtes net, propre. Parce que c'est seulement le sang de Jésus qui puisse laver et purifier de tout péché. Rien d'autre. Alors pour toutes ces raisons, Jésus, il est le remède universel dont le monde a besoin pour les guérir. Oui, Jésus est le remède. Parce que où Jésus est, il y a toujours la paix, il y a toujours la joie, il y a toujours la satisfaction. Nous ne pouvons pas dénombrer les malades que Jésus a délivrés. Une femme malade depuis 12 ans, d'une hémorragie. Quand on parle d'une maladie d'hémorragie, c'est le sang qui coule. Le sang, c'est la vie. Ça veut dire, c'est comme ça, hein. Après avoir tout dépensé, sans soulagement, elle a rencontré Jésus et elle fut guérie. Elle a trouvé le remède. Un homme devant la piscine de Bethesda. Regardons dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 2. Jusqu'à verset 9. À Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, une autre descend avant moi. C'est pas facile, non, mes frères? C'est une vie, chacun pour soi, Dieu pour tous. Boum, je suis malade, vous êtes malade, je suis là, je vais me jeter avant, hein. Jésus dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé le médicament, il a trouvé le remède. Jésus, c'est le remède. Alors, comment ces malades étaient-ils guéris? Seulement par la foi en Jésus-Christ. Seulement. Parce que s'il n'y avait pas de foi, rien ne serait fait. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. La foi seule sauve. La foi en Jésus-Christ. Je voudrais partager aussi le verset 24 du Jean 5, où il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Quelle assurance que nous avons. Non seulement nous sommes sauvés, mais nous n'allons pas être jugés parce que nous le sommes déjà. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et pourtant, ces malades qui étaient guéris seulement par la foi, dans Jean 3, 36, ils disent, ceux qui acceptent Jésus, ils ont la vie éternelle, mais ceux qui n'acceptent pas, non seulement ils n'ont pas la vie, mais la colère de Dieu demeure. Frères et sœurs, notre monde est malade. Notre société est malade. Ce qui se passe nous bouleverse. Des enfants de 14, 15 ans sont déjà meurtriers, sont déjà criminels. Vous envoyez votre enfant à l'école ce matin, après-midi, c'est le cadavre, il faut aller à la morgue. Est-ce que vous imaginez dans quelle situation sociale où nous sommes aujourd'hui? Vous imaginez aussi un président est condamné pour corruption? Il est où le modèle? Voilà pourquoi c'est seulement Jésus-Christ qui est notre modèle. Personne d'autre. Personne. L'église de Jésus-Christ est malade aussi. Hein? Elle n'est pas épargnée. Puisque ce que nous trouvons dans le monde, ils sont aussi dans l'église de Jésus-Christ. Nos familles sont malades. Nos couples sont malades. Jésus est le seul médecin par excellence et le remède qui peut guérir tous les maux de l'humanité. Il suffit de croire en lui. Jésus est la panacée qui peut guérir tous les maux. Dans Psaume 103, verset 3, c'est là il est écrit qui guérit toutes les maladies. si les quantités de vaccins pouvaient guérir les COVID-19 et ses dérivés, tout le monde serait content de se faire déjà vacciner. Tout le monde. Mais, malheureusement, la science a ses limites. La science ne peut pas tout faire, mes frères et sœurs. Mais Dieu, il est omniscient. Il est omnipotent. Rien n'est impossible avec lui. Si ce matin seulement, au moment où nous sommes là, Dieu il dit, arrêtez et puis c'est fini. C'est fini. Parce que c'est lui qui a l'autorité sur tout. Si vous voulez être guéri de vos péchés, si vous voulez être guéri de vos maladies, si vous voulez être guéri de vos méchancetés, regardez vers Jésus et acceptez sa grâce et vous aurez la vie éternelle. Et pourquoi toutes ces choses? Pourquoi Dieu a-t-il donné son Fils? C'est tout simplement parce qu'il nous aime. Tout a été fait par amour. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et notre assurance, c'est que rien ne peut nous séparer de cet amour de Dieu. Que Dieu déverse sur nous sa grâce, ses bénédictions, sa paix, et qu'il nous garde et qu'il nous bénisse. Merci.